mon refrain en place. On va écouter les messages. Et le message nous sera apporté ce matin par notre frère et pasteur Pascal Kalala, pasteur de notre église La Borne à Bandundu, Bandundu Ville. Ce n'est pas sa première fois d'intervenir ici. C'est un fils de la maison. Il était là depuis le début et il est encore là ce matin. Et alors que nous voulons le recevoir, il s'élève. Il n'est pas venu seul. Il est venu également avec notre sœur, la sœur Godelive. Est-ce qu'elle peut s'élever aussi? Voilà, nous voulons les recevoir dans la maison de Dieu. Les enfants aussi doivent être quelque part. Les enfants aussi doivent être quelque part. Est-ce qu'ils peuvent s'élever? Ils sont là-bas, au fond. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que je vais inviter le frère Pascal à monter sur la chair, nous acclamons le Seigneur. Merci, Jésus.
Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous rassemble ce matin à ces lieux. Et je vais dire aussi tout particulièrement merci au pasteur Maurice, à maman Sylvie, pour cette marque de confiance qu'il manifeste et qu'il ne cesse de manifester à notre égard. Et cette occasion qui nous accorde de pouvoir servir le Seigneur devant vous. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ce jour. Et merci pour ce que ces moments engendrent dans notre vie. Merci de ce que ta parole est la voie par laquelle tu as créé toutes choses. Elle peut faire exister des choses dans notre vie, même des choses qui n'existaient point. À ta gloire et conformément à ta volonté, que ces moments bénissent quiconque est connecté à ces lieux, que ce soit à travers le média, que ce soit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, différé, que chacun de nous soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais vous transmettre les salutations de la ville de Bandundu, de vos frères et sœurs de l'église La Borne Bandundu. Pour ce matin, le thème de notre prédication, c'est l'interprétation d'imagerie des grossesses. Interprétation d'imagerie de grossesse. Nous savons tous que quand une femme est grosse, quand elle attend famille, médicalement, il est recommandé qu'elle procède à des examens, des consultations prénatales, où il y a une série d'examens à passer. Parmi des examens recommandés, ce sont des examens, et il y a les examens d'imagerie que nous appelons échographie. Alors, elle est appelée à passer, ça dépend d'un cas à un autre, au moins 3 échographies vers le début de la grossesse, au milieu et vers la fin de la grossesse. Ceci est d'une grande importance, ça permet à ce que le médecin ait connaissance plus ou moins exacte de l'état de l'enfant à naître, son poids, son âge, son sexe, son rythme cardiaque, l'état de ses poumons, le développement de ses os, de ses muscles, de son cerveau. Et tout ça, ce sont les renseignements que l'échographie fournit. Et les examens d'échographie ou d'imagerie sur base d'échographie, c'est fait avec un appareil d'échographie, bien sûr, et un technicien appelé échographiste. Des analyses sont projetées sur l'écran et sont vues comme photos ou autrement dit clichés. Et ce matin, je vais nous proposer quelques clichés parce que c'est une chose que d'avoir les clichés, c'est une autre que d'avoir une bonne interprétation. Alors, je vais demander à la technique, il y a 5 clichés que je vais nous présenter et après quoi nous allons prier. Si la technique est prête, elle peut nous projeter le premier cliché. Voilà. le premier cliché est là. Nous avons tous les yeux sur les clichés, mais qu'est-ce que ça nous dit? Personne ou la plupart d'entre nous ne comprennent pas. Mais s'il y a des médecins ici, ils comprennent que ça, c'est le cliché de l'utérus d'une femme et indique la présence de l'embryon. Ouais, entre les deux traits là, c'est un embryon. On ne sait pas voir la forme. C'est une masse qui ne présente pas vraiment des formes précises et concises, donc une masse informe. Ça, c'est au tout début de la grossesse, autour des plus ou moins 4 semaines de grossesse. Le deuxième cliché, la technique, nous avons ici, ce n'est plus un embryon, c'est un fœtus, parce que c'est déjà au-delà de 4 semaines. La forme paraît maintenant de plus en plus visible, n'est-ce pas? Ça, c'est la tête, le crâne et le reste du corps. Vous voyez, le cordon ombilical est là-bas. Il y a un autre cliché, le troisième. Ces clichés indiquent une grossesse gemellaire, c'est-à-dire des jumeaux. Nous avons la présence des embryons de part et d'autre, dans deux poches différentes. Le cliché suivant, ici c'est plus visible encore, donc nous avons la présence des fœtus dans une même poche, donc encore une fois, une grossesse gemellaire, des jumeaux. C'est clair, je pense, pour tout le monde. Et les clichés suivants, le troisième cliché, celui-ci est le même que celui des jumeaux, mais en âge différent. Les deux premiers aussi, c'est un seul embryon, mais en âge différent. Donc, et maintenant, le troisième, là, vous avez écrit le thème. La technique s'est perdue. Le troisième cliché, c'est Jérémie chapitre 1. À partir du verset 4 jusqu'au verset 10. Parce que l'imagerie n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a l'imagerie médicale, dont nous venons de voir des clichés, et aussi l'imagerie prophétique, dont nous sommes en train de voir maintenant les clichés. Jérémie chapitre 1, du verset 4 au verset 10, nous lisons. C'est le troisième cliché. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur Éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je te ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main, il toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Donc, ce troisième cliché, représenté par Jérémie 1, 4 à 10, que nous venons de voir, ressemble au tout premier cliché. Le tout premier où nous ne savons pas distinguer la forme, la présence de la vie humaine. Nous avons une masse, mais sans aucune forme. Alors, quand le médecin regarde le premier cliché, il va dire qu'il y a présence d'embryon, et puis il peut dire autant de semaines déjà, âge de vie, il peut dire les caractéristiques, voilà, caractéristiques. Ça, c'est ce que le médecin ou l'échographiste peut dire. Et le même cliché, quand Dieu les regarde, l'interprétation de Dieu est différente. Dieu n'interprète pas les clichés comme étant battement de cœur bon, et puis présence dans l'utérus extra ou intra, et puis j'aime l'air ou mon nom. Donc Dieu n'interprète pas par rapport à cela. Dieu dit, quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc Dieu avait détecté aussi la présence de Jérémie. Quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fisses sortir de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Alors que le corps médical dit présence d'embryon. Et à l'âge évolué vers, on dira, certains garçons, le sexe est déterminé. Mais Dieu, quand il regarde le même cliché, il n'interprète pas que c'est un garçon, c'est une fille, mais Dieu interprète selon la destinée. Dieu dit, je te connaissais, avant que tu fisses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. La bonne interprétation, c'est celle de Dieu. Le point de vue de Dieu voit et qualifie la personne selon sa destinée. Pour le cas de Jérémie, l'échographie effectuée par Dieu donne le résultat tout autre, prophète des nations. Ce n'est pas seulement à Jérémie que Dieu peut donner le résultat et la bonne interprétation de l'imagerie, de l'échographie, mais ça, c'est ce que chacun de nous devra savoir. Que Dieu me connaît quand je suis encore une masse informe. Dans le sein maternel, du reste, l'appareil d'échographie, c'est à partir de la quatrième semaine qu'il peut détecter la présence de l'embryon. Avant cela, l'échographie ne sait pas. Mais Dieu dit, quand tu étais encore une masse informe, je te connaissais, je t'avais consacré, je t'avais établi. Donc quand Dieu regarde ces clichés, Dieu voit un prophète des nations. C'est ce que chacun de nous tous devrait savoir. Et il y a quelqu'un d'autre qui le savait aussi. Et il a dit. Et il a dit pour lui-même ce que chacun de nous peut dire pour lui-même. Et nous avons déjà eu l'occasion de dire une partie de ce que cette personne a dit. Et je nous invite à voir cela dans le psaume 139. David. Psaume 139, du verset 17, du verset 12 au verset 17. David dit. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Vous voyez? L'appareil d'échographie, ce sont des sondes qu'on utilise pour pénétrer l'intérieur, voir l'intérieur du ventre, parce que c'est obscur, c'est caché. C'est pourquoi on doit faire usage de cet appareil en utilisant les ultrasons. Mais David, qui connaissait l'imagerie prophétique, l'existence de l'imagerie prophétique, il dit, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la nuit, comme la lumière plutôt. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Ça aussi, nous avons déjà eu l'occasion de le dire, n'est-ce pas? David continue. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. L'échographie de Dieu détecte. Pas besoin de sondes. Dans l'imagerie prophétique, il n'y a pas besoin de sonde, il n'y a pas besoin d'écran. Les yeux de Dieu font la sonde. Les yeux de Dieu projettent et les yeux de Dieu voient. Quand j'étais encore une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Donc, mes jours, mes destinées sont connues de Dieu, non pas parce que quand j'ai fini l'université. Mes destinées sont connues de Dieu, non pas parce que quand j'ai reçu une nomination à un poste de responsabilité quelconque. Mes destinées sont connues de Dieu, non pas à partir de la famille de laquelle je suis né. Né d'une famille riche, destiné à être riche. Né d'une famille pauvre, destiné à être pauvre. Non. Rien à voir. Mes destinées ne sont pas établies par rapport à la nation à laquelle j'appartiens. David peut le dire avec assurance. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était écrit tout était inscrit. Tous les jours qui m'étaient destinés. Avant qu'aucun d'eux existât. Bien-aimé dans le Seigneur, il convient que nous arrivions à cette certitude. Savoir que je suis connu de Dieu, non pas quand moi j'ai connu Dieu. Je suis connu de Dieu avant même que je ne connaisse Dieu. Et avant même qu'on me connaisse, avant même que l'échographiste ne me connaisse, avant que le médecin ne me connaisse, avant même que ma mère ne soit consciente que maintenant elle a ma grossesse. Et là, mes destinées étaient déjà établies par Dieu. Je suis une créature merveilleuse. Non pas une personne de trop sur la terre. Non pas une personne inutile sur la terre. Je suis une créature si merveilleuse. Je tiens mes destinées, non pas de ma nation. Je tiens mes destinées de mon Dieu, de mon Créateur. Si quelqu'un peut parler comme David, il pourra vivre la gloire qu'a vécu David sur la terre. Mais si nous disons, ah, nous sommes Africains, nous, de la peau noire, ah, nous, Congolais, eh, ma famille à moi, hein, famille des problèmes, il y a trop de sorcellerie, il y a ceci, cela. Si nous parlons comme cela, nous serons sous le joug. Nous serons en train de vivre une autre vie que celle à laquelle Dieu nous a destinés. Nous devons porter dans nos cœurs cette assurance et les déclarer de notre bouche. Car Dieu ne regarde pas par rapport à l'état de sexe, non pas par rapport à l'âge de grossesse, mais Dieu regarde par rapport à la destinée. Vous savez, le langage humain, pour la même personne, donne autant de qualificatifs. Embryon, là c'est depuis la conception, jusqu'à 8 semaines. La même personne est appelée embryon. Quand la personne va au 3e mois de son existence dans l'utérus, jusqu'à sa naissance, la même personne, le langage humain l'appelle fœtus. Quand la personne sort du sein maternel, la même personne est appelée nouveau-né. Et puis après quelques jours, la même personne est appelée bébé. Et après, la même personne, le langage humain l'appelle enfant. Le langage humain appellera la même personne jeune garçon, jeune fille, ado. La même personne sera appelée par le langage humain adulte. Le langage humain appellera la même personne vieille, vieux ou vieillard. Et pourtant, c'est la même personne. Mais Dieu, quand on voit la masse informe, Dieu l'appelle prophète des nations. Dieu ne l'appelle pas embryon, Dieu ne l'appelle pas fœtus. Vous voyez pourquoi l'avortement est mauvais, n'est-ce pas? Dieu ne l'appelle pas embryon, Dieu ne l'appelle pas fœtus. Dieu l'appelle prophète des nations. Combien de prophètes ont été éliminés? Combien de ministres ont été éliminés? Combien de chefs d'État ont été éliminés par les actes d'avortement? Donc, Dieu ne change pas de langage selon les temps, selon l'âge, selon le contexte et les circonstances. Donc, Dieu n'évolue pas. Dieu reste le même dans ce qu'il connaît et dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il a établi. Donc Dieu n'est pas opiniâtre que vu le temps, la lyre des circonstances, dans ce contexte ici, voici comment j'appelle la personne. Et dans, lorsque le contexte se prête autrement, voilà, je change, désormais tu es tel. Non, Dieu ne change pas de langage, Dieu ne change pas d'opinion, Dieu ne change pas d'avis. Lorsque tu es encore une masse informe, Dieu dit, je te connaissais, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc Dieu ne voit pas de fœtus, Dieu ne voit pas des embryons, Dieu ne voit pas, Dieu voit des prophètes, Dieu voit des pasteurs, Dieu voit des apôtres, Dieu voit des ministres, Dieu voit des entrepreneurs, Dieu voit des gouverneurs, Dieu voit des présidents de la République, Dieu voit. Voilà ce que Dieu voit. Et ça ne change pas. Ça ne change pas. Même si les temps changeaient. Même si les circonstances changeaient, même si le contexte changeait, ça ne change pas. Dieu reste dans ce qu'il connaît, dans ce qu'il a dit, dans ce qu'il a établi. À moi de les reconnaître, à moi de les croire, à moi de les proclamer et à moi de marcher selon mes destinées auprès de Dieu. Quatrième cliché. Ça, c'était le troisième. Quatrième cliché. Nous est présenté dans Genèse chapitre 25. Genèse 25, verset 20, verset 24. Il est écrit, Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'Aramaïen, de Pédam, Aram et sœur de Laban, l'Aramaïen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla à la semaine. Si, la Bible dit, elle consulta l'Éternel. La médecine n'est pas seulement humaine. L'imagerie n'est pas seulement médicale, il y a aussi l'imagerie prophétique. Et ce soir, et en ce jour, je voudrais nous connecter à l'imagerie prophétique. Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui sortit les clichés avec l'interprétation. Le verset 23 dit, et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre. Cela ressemble au cliché que nous avons projeté tout à l'heure, le deuxième cliché. Si la technique pourrait encore balancer ça, les clichés qui nous montraient la présence des deux, ce que le monde appelle des embryons ou des fœtus. Ça, c'est l'observation de l'échographiste humain. Et voilà. Quand l'homme observe, il dira présence des deux fœtus, grossesse gémellaire. Mais quand Dieu fait son observation, l'échographie, Dieu dit deux nations. L'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Voilà. La manière dont tu vas accoucher, il y a donc deux peuples sortiront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Quel est ce médecin qui peut donner un tel résultat? La Bible dit le verset 24, « Les jours où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. » L'échographie de Dieu ne rate pas. L'imagerie de Dieu est précise. Il n'y a pas l'histoire qu'on vous dit que non, c'est un garçon, et puis à la naissance, tu vois, c'est une fille. Et puis, les médecins expliquent que non, l'enfant avait caché les sexes. L'imagerie de Dieu, c'est avec précision. Quand Dieu dit deux, c'est deux. Quand l'ange annonce à Marie, tu seras enceinte, tu enfanteras un fils, Marie enfantera non pas des jumeaux, et Marie n'enfantera pas une fille. Quand c'est dit un fils, c'est un seul, et puis fils, garçon. Il y a la précision auprès de Dieu. Ça ne trompe pas, ça ne t'attonne pas. Pendant que le monde peut parler de déjugement, Dieu parle en termes de destinée. Encore une fois, Dieu nous regarde par rapport à notre destinée. Dieu ne parle pas de déjugement, Dieu parle de deux nations. Est-ce que chacun de nous sait qu'il est en soi une nation? Quand Dieu parlait de deux nations, nous savons qu'il s'agissait de Jacob et Ésaü. Deux nations, chacun d'entre eux était une nation. Chacun. Dieu a mis en nous la puissance d'être une nation. À chacun de nous individuellement. La puissance d'être une nation. Ainsi, quand Dieu regarde Adam, Dieu ne voit pas un homme. Quand Dieu regarde Ève, Dieu ne voit pas une femme, tout simplement. Quand Dieu les regarde, Dieu voit des milliards d'hommes. La Bible dit, l'Éternel les bénit et dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Dieu n'a pas créé plusieurs Adam et plusieurs Ève. Un seul Adam et une seule Ève, mais qui représentait toute la population mondiale. Dieu a établi en chacun de nous tous la puissance des nations. C'est le Dieu qui dit à Abraham, je t'établis, tu seras père des multitudes. Et là, Abraham n'a pas encore d'enfants. Donc, ça ne dépend pas de ce que tu as déjà combien d'enfants. Bon, comme ils sont nombreux, tu deviens père des multitudes. Non. Dieu met en nous la puissance des nations. La puissance d'être une nation. Il dit à Jérémie, ce que nous avons lu, que je t'établis prophète des nations. C'est Dieu qui a mis la vie dans la sémence. Vous savez, les sémences sont de formes différentes, de tailles différentes. Nous avons les noyaux des mangues, par exemple. Nous avons les noyaux des cocotiers. Nous avons les pépins des papayes. Nous avons les grains d'orange. Ce sont des sémences de plusieurs tailles, de plusieurs formes. Mais seulement, dans chacune de ces sémences, il y a la puissance de la forêt. Ces noyaux de mangue, quand vous le mettez en terre, ça germe, ça va donner un manguier qui porte de fruits. Chaque fruit a un noyau. Quand on met ça en terre, ça donne chacun un manguier avec de fruits. Et si on continue le cycle, au bout d'un temps, on aura toute une forêt de manguiers, partie d'un seul noyau. On peut avoir un verger d'orange à partir d'une seule graine d'orange. Parce que dans la sémence, Dieu a mis la puissance supérieure, la puissance de forêt. En chacun de nous, il y a la puissance des nations. En chacun de nous, il y a la puissance des grandes choses. En chacun de nous, il y a la puissance des choses extraordinaires. En chacun de nous, au-delà de tout ce que nous pouvons nous imaginer, et au-delà de tout ce que nous avons déjà vécu, en chacun de nous, sans exception. Ça ne commence pas au jour où nous avons été connus par la société, mais c'est comme ça que Dieu a planté, a fait des choses, le principe de vie, quand on est encore dans le sein maternel. Masse informe. Et l'échographie de Dieu donne les résultats tout autres, en rapport avec notre destinée. Dieu dit à Rebecca, des nations sont dans ton ventre. Imaginez, vous consultez un médecin vous dit ça, la femme va crier, oh! Des nations, ça veut dire combien de personnes? Des nations sont dans ton ventre. Les derniers clichés, le cinquième, nous les trouvons dans Actes chapitre 9. Le verset 10 jusqu'au verset 15. Il est écrit. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mot que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. » Et il a ici des pouvoirs, de la part des principaux sacrificateurs pour lier tout ce qui invoque ton nom. Ananias informe le Seigneur. Certainement, il s'est dit, bon, toi, tu es au ciel, tu ne sais pas des choses qui se passent sur la terre. Voici sur la terre, Saul de Tarse là, un méchant, persécuteur, il a fait des dégâts à Jérusalem, et ici, il a reçu, il a des lettres de souverain sacrificateur pour arrêter quiconque invoque ton nom. Tu n'es pas au courant. Donc, tu es en train de m'envoyer vers une personne dangereuse. Il va m'arrêter. Ce n'est pas quelqu'un sur qui il faut compter. Le verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que je choisis pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le fils d'Israël. Devant les nations. Tu as la puissance des nations en toi. Tu as le pouvoir des nations en toi. L'interprétation de Dieu, c'est celle qui vaut la peine. Nous avons entendu l'interprétation d'Ananias, un humain. Et son interprétation était basée sur le résultat, les rapports d'hommes. Mais l'interprétation de Dieu sur la même personne est différente. Dieu dit que cet homme est un instrument que je choisis. Il portera mon nom devant les nations, devant les rois. Cet homme-là, la même personne que vous vous appelez persécuteur, la même personne que vous vous appelez méchante, la même personne que vous vous appelez meurtrier, les regards de Dieu sont différents. Dieu le voit pas non pas à son passé, mais Dieu le voit par rapport à sa destinée. Dieu te regarde par rapport à ta destinée. Dieu me regarde par rapport à ma destinée. Oh, dis que Dieu me regarde par rapport à ma destinée. Si tu peux le confesser, si tu peux le déclarer, je t'invite à croire cela, à le dire de tout ton cœur et de ta vive voix. Dieu te regarde par rapport à ta destinée. Quand est-ce que Dieu a choisi Saul de Tarse pour qu'il devienne, qu'il soit instrument de Dieu, afin de porter le nom de Dieu devant les nations? À quel moment? Au moment où Paul était sur le chemin de Damas, quand le Seigneur lui a parlé par une vision céleste. C'est à ce moment que Dieu l'a choisi. C'est à ce moment que Dieu l'a établi. C'est à ce moment-là. Non, non et non. Ce n'est pas à ce moment-là. Détrompez-vous. Ce n'est pas à ce moment-là. Écoutons Paul lui-même dans Galates chapitre 1er. Écoutons Paul, Galates chapitre 1er, le verset 13. Nous lisons juste au verset 16. Nous écoutons Paul. Il va nous aider à comprendre cela clairement. Il est dit, « Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'Église des dieux, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès les seins de ma mère. Mis à part dès les seins de ma mère. Non pas sur dès la rencontre du chemin de Damas. Ça n'a pas commencé là. La vocation n'a pas commencé là. La destinée de Paul n'a pas commencé là. Mais c'est dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son fils afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni les sangs. C'est-à-dire, j'ai compris ma destinée, je me suis mis dans le chemin de ma destinée selon Dieu. Tout le temps que Paul était persécuteur de l'Église, qu'il faisait des ravages contre l'Église des dieux, Dieu voyait non pas un persécuteur, mais un apôtre. Ceci veut nous dire quoi? Que bien aimé dans le Seigneur, il nous arrive à vivre une autre vie que celle à laquelle nous sommes destinés. Une autre vie que celle à laquelle nous sommes destinés. Dieu voyait Saul de Tarse apôtre, instrument pour porter le nom de Dieu devant les nations. Mais pendant ce temps, le Saul de Tarse persécutait l'église de Dieu. Voulait faire effacer le nom de Jésus sur la terre. Vous imaginez. Une vie contraire à sa destinée. Tout à fait contraire. Il arrive qu'on soit en train de mener une autre vie que celle qui nous est destinée par Dieu. La vie à laquelle Dieu nous appelle, ce n'est pas une vie basse. Ce n'est pas une vie d'infériorité. Ce n'est pas une vie de misère. Ce n'est pas une vie de pauvreté ou de bassesse. Ce n'est pas une vie de paganisme. Ce n'est pas une vie d'incrédulité. Quand on est païen, on est dans une autre vie que celle à laquelle on est appelé. C'est comme ces deux disciples après la mort de Jésus et qui faisaient partie du groupe. Ces deux disciples résolurent de retourner à Emmaüs. Ils étaient déçus. Ils ne s'attendaient pas à ce que Christ mourait. Et le voilà, c'est dire l'un à l'autre. Cléopas a dit à son ami, « Ah, reprenons notre ancienne vie. Nous avons espéré en ce Jésus, nous sommes déçus. Nous avons laissé nos affaires, allons reprendre nos affaires, allons reprendre notre ancienne vie. » Et le voici sur le chemin d'Emmaüs. Ils sont engagés dans le découragement. Ils sont engagés dans l'incrédulité. Ils sont en train de s'éloigner de leur vocation, de leur destinée. Le voici en train de partir. Paul à Damas ne partait pas pour évangéliser. Saul de Tarse ne partait pas pour annoncer le nom du Seigneur. Il partait pour ravager l'église du Seigneur qui était à Damas. Faire arrêter les chrétiens, les croyants qui étaient à Damas. Chemin contraire à sa destinée. Des actes contraires à sa destinée. Une vie contraire à sa destinée. Ce que j'aime, c'est que le Seigneur est bon. Le Seigneur est miséricordieux. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est patient envers nous. Le Seigneur vient nous rencontrer sur notre chemin. C'est sur le chemin de Damas, le chemin du meurtre, que le Seigneur vient rencontrer Saul de Tarse. C'est sur le chemin de la méchanceté que le Seigneur a rencontré Saul de Tarse. C'est sur le chemin du découragement que le Seigneur a rencontré ses deux disciples de Jésus. C'est sur ce chemin. Je prie que le Seigneur te rencontre sur ton chemin. Sur ce chemin contraire au chemin de ta destinée, que le Seigneur vienne à ta rencontre. Sur ce chemin contraire au chemin de ton avenir, selon Dieu, que le Seigneur vienne à ta rencontre. Tu es appelé à la grandeur, mais te voici dans la petitesse. Que le Seigneur te rencontre sur le chemin de la petitesse. Tu es appelé à être entrepreneur, mais te voilà au chômage. Que le Seigneur te rencontre sur ton chemin de chômage. Tu es appelé à être un employeur, et te voilà encore un employé. Que le Seigneur te rencontre sur ton chemin d'employé. Tu es appelé à être marié, mais tu te voilà encore célibataire. Que le Seigneur te rencontre sur ton chemin de célibat. Tu es appelé à être serviteur de Dieu, te voilà encore dans le péché. Que le Seigneur te rencontre sur le chemin de ton péché. Tu es appelé à être apôtre, te voilà encore dans les boîtes de nuit. Que le Seigneur te rencontre sur le chemin de la débauche. Tu es appelé à être gouverneur. Tu es appelé à être ministre. Tu es appelé à être un grand. Mais te voilà encore dans la bassesse, dans une vie qui n'est pas la tienne. Que le Seigneur te rencontre. Te rencontre sur ton chemin de Damas. Te rencontre sur ton chemin de Maus. Que le Seigneur te rencontre. Et quand le Seigneur te rencontre sur ton chemin de Damas, tu vas désormais emprunter le chemin de Jésus. Désormais, tu vas emprunter le chemin du Seigneur. Saul de Tarse qui tombe de son cheval. Finalement, il va poser la question au Seigneur. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Que ta vie arrive à ce point. Que ta vie arrive à ce moment où ce n'est plus ta propre volonté. Où ce ne sont plus tes propres calculs. Mais où tu es maintenant prêt à adopter le programme de Dieu. À adopter le projet de Dieu sur ta vie. À adopter le plan de Dieu. À comprendre ses plans. À te laisser faire. À te laisser entraîner. Et à marcher dans le chemin du Seigneur. Dans le plan de Dieu. Dans les desseins de Dieu. Que ce moment arrive dans ta vie. Que ce jour d'aujourd'hui serve de jour de rencontre du Seigneur. Où le
le Seigneur vient te rencontrer dans ton chemin, où le Seigneur vient te trouver dans ta position, où le Seigneur vient te trouver dans ton état, où le Seigneur vient te trouver dans ta situation et t'amène vers lui, t'amène vers ses plans, t'amène vers tes projets, ses projets, t'amène dans l'accomplissement de ta destinée. Que le jour d'aujourd'hui soit ainsi pour toi. Car le Seigneur ne te regarde pas par rapport à ton passé. Le Seigneur ne te regarde pas par rapport à tes faiblesses. Le Seigneur te regarde par rapport à ta destinée. L'Éternel ne compte pas même le nombre de personnes que tu as déjà persécutées. Paul, tu as déjà persécuté. Tu étais au maître des tiennes et tu as fait arrêter autant de personnes. C'est perdu pour toi. Non, par rapport à ça, ça ce sont les hommes qui peuvent continuer à comptabiliser. Ce sont les hommes qui vont continuer à comptabiliser. Ils auront un grand registre où ils mentionneront tout ce que tu as fait. Et ils seront en train de rappeler ça aux générations et aux générations. Mais pour Dieu, il dit, cet homme est un instrument que je choisis. Cet homme, c'est un instrument que je choisis. Il portera mon nom devant les nations. Je lui ai donné la puissance des nations. Il a le pouvoir des nations, d'atteindre les nations, de toucher les nations, d'influencer les nations. Voilà le regard de Dieu. C'est cela l'interprétation de Dieu. C'est cela l'interprétation de Dieu. Dieu nous regarde par rapport à la destinée et non pas par rapport au passé. Dieu dit dans le psaume 89, le dernier texte à lire. Psaume 82 plutôt. Psaume 82, le verset 6 et 7. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Voilà là où Dieu nous a placés. Et il peut se faire un grand écart. Et souvent, il y a un grand écart entre là où Dieu nous a placés et ce que nous sommes. Ce que nous nous manifestons, ce que nous nous présentons. C'est Dieu qui dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Et Jésus a rappelé cette parole. Lorsqu'on lui disait, comment toi tu n'es qu'un homme, tu te fais fils des dieux. Jésus dit, mais quand l'Écriture dit, vous êtes des dieux. Donc Dieu nous a placés haut et nous, nous vivons bas. Mais il y a possibilité de réduire l'écart. J'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Pourquoi vous mourrez alors que vous devez vivre? Et vous mourrez comme qui? Comme des hommes, alors que vous devez vivre comme des dieux. Non, il n'y a plus question de mourir comme des hommes, il est question de vivre comme des dieux. Selon ma destinée, selon ma vocation, selon l'établissement des dieux, selon le programme des dieux. Et oui, merci, selon l'interprétation de Dieu. Gloire à Dieu. C'est la bonne interprétation. Cette interprétation-là, c'est la vérité. Si la réalité est tout autre, il faut s'accrocher à la vérité. La vérité a le pouvoir de changer la réalité. Et David pouvait le confesser. Je te loue pas, je suis une créature si merveilleuse. Quand j'étais encore une masse informe dans le sein de ma mère, tu me connaissais. Tu me connaissais et tous mes jours étaient inscrits auprès de toi. Ma destinée était auprès de toi, connue d'avance. Voilà ce que je dois avoir en esprit. Et cette destinée, ce n'est pas une destinée de misère. C'est une destinée des nations, de puissance des nations, de pouvoir des nations, d'influencer, d'impacter, de faire de grandes choses, de marquer sa génération, de marquer même plusieurs générations. Plusieurs générations. Quelqu'un se bat parce qu'il est chef de bureau. Mais Dieu te voit plus que chef de bureau. Dieu te voit plus que chef de bureau. Dieu te voit plus que chef de promo. Un anniversaire, moi, j'étais chef de promo. Maintenant, les autres sont en train de monter des coups bas pour me renverser tout ça. Et tu te bats pour cela. Tu es malheureux. Et même, tu as séché l'église parce que tu as beaucoup de problèmes à l'université. Ton poste de chef de promo est menacé. Waouh! Waouh! J'ai dit que vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des simples hommes. Bien-aimés, levons les yeux. Bien-aimés, regardons plus haut. Bien-aimés, regardons plus grand. Bien-aimés, regardons plus puissant. Bien-aimés, regardons plus fort. Bien-aimés, regardons plus riche. Regardons plus élevé. C'est ce que nous devons regarder. Alors, notre vie va se propulser vers cela. Si nous regardons bas, notre vie sera en train de descendre. De descendre vers la fosse. Les nations africaines doivent apprendre à regarder plus haut. Les peuples africains doivent apprendre à regarder plus haut. Les Congolais doivent apprendre à regarder plus haut. Si nous regardons plus haut, nous allons monter vers les hauteurs. Mais si nous regardons toujours plus bas, nous descendrons dans la fosse, dans le trou. Dieu nous regarde non pas par rapport à l'état présent, ni encore au passé. Dieu nous regarde par rapport à la destinée. Dieu regarde et voit des prophètes. Dieu voit des apôtres. Dieu voit des pasteurs. Dieu voit des évangélistes. Aujourd'hui, je puis être pasteur, mais je me souviens, des années, j'étais mon dîme à l'église, en train de suivre les prédications et de noter. Et là, aucune idée que je serais pasteur. Aucune. Mais à ce moment-là, Dieu regardait celui qui est en train de suivre la prédication là et qui est en train de noter. C'est un pasteur. Alléluia. Dieu voit chacun de nous par rapport à sa destinée. Je t'invite aujourd'hui à t'associer, à accrocher à l'interprétation de Dieu. L'interprétation de Dieu, c'est l'interprétation de grandeur, l'interprétation de puissance, l'interprétation de distinction. Quelle que soit ta famille, quel que soit ton rang, quel que soit ton passé, quels que soient les actes que tu as déjà passés, posés, d'échecs ou de réussites. Les réussites passées ne font pas ta totalité, les échecs passés ne font pas non plus ta personne. Ce qui fait ta personne, c'est ce qui sort de la bouche de ton Dieu. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de son Dieu. De ce qui sort de la bouche de son Dieu. Ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est ce qui fait ma vie. C'est ce qui fait ma vie. C'est ce qui fait ma vie. Et je vais m'accrocher à cela. Je vais vivre de la parole de Dieu. Je vais vivre de ce qui sort de la bouche de Dieu. Je vais vivre de ce qui est dans le plan de Dieu. Je vais vivre de ce qui est dans le programme de Dieu. Je vais vivre mes destinées selon Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un saisit la pensée de Dieu ce matin? Alors nous allons prier. J'avais dit qu'il y avait 5 clichés après quoi nous allons prier. Maintenant nous allons prier. Et chacun va prier pour soi-même. Si tu as compris les desseins de Dieu, et proclamé comme David pouvait le proclamer sur sa propre vie. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue de ce que, quand j'étais encore masse informe dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Bénis le Seigneur par rapport à ça. Commençons par là, bien-aimé. Rendons grâce à Dieu, chacun de nous, à ce qui le concerne. Chacun de nous. Quel que soit ce que tu as vécu jusque-là. Rends grâce à Dieu qu'il t'a connu depuis que tu étais encore masse informe dans le ventre de ta mère. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Élève ta voix, glorifie Dieu. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Le Dieu qui a inscrit tes destinées dans son livre. Le Dieu qui a inscrit ton avenir auprès de lui. Le Dieu qui a inscrit les détails de ta vie. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Dieu ne t'appelle pas un embryon. Dieu ne nous appelle pas un fœtus. Dieu ne nous appelle pas embryon. Dieu ne nous qualifie pas de fœtus. Dieu ne nous qualifie pas de nouveau-nés. Dieu ne nous qualifie pas de bébés. Dieu nous appelle prophète. Dieu nous appelle apôtre. Dieu nous appelle entrepreneur. Dieu nous appelle prophète des nations, père des multitudes. Dieu nous appelle. Vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut. Alléluia.